Bonjour mes frères et sœurs, vous allez bien ce matin?
Ça y est, c'est le printemps, ça se voit, ça bourgeonne de partout. Il y a des boutons sur le nez, non, je plaisante. Plus à nos âges. Enfin si, les adolescents. Allez, nous allons faire une lecture dans 1 Roi 3.19 ce matin. 1 Roi 3.19. Non, 1 Roi 3.9, pardon. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger un peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Voilà. Ce matin, je vais vous dire des choses un peu bizarres. Vous avez l'habitude, hein. Voilà, c'est toujours un petit peu bizarre. Jésus, je te prie de nous aider à comprendre, pour que nous ne fassions pas l'erreur d'être dans un extrême ou dans un autre, mais que nous soyons dans le juste milieu et que nous soyons intelligents. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen, dans le nom de Jésus. Un jour, Jésus a été reçu dans une maison où vivaient deux sœurs avec leur frangin, Lazare. C'était Marthe et Marie, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la relire. Marthe était plutôt pratique, c'était une ménagère. Par conséquent, elle avait le souci, n'est-ce pas, la responsabilité, elle se sentait responsable de la bonne réception de leur hôte, de Marc, de Jésus donc. Et elle était absorbée par de nombreux soucis, de services, de faire les choses d'une façon magnifique et tout. Et Marthe était pleine de bonnes intentions, et c'est très pour rassurer le confort de Jésus, et c'est magnifique. Et Marie, elle était assise, et elle écoutait les paroles de Jésus. Alors, c'est pas parce que c'était une flemmarde, mais elle s'est dit, Jésus passe ici, je vais en profiter un maximum, voilà. Bon, ben, elle a laissé sa frangine travailler toute seule, mais sa frangine, c'était son choix aussi de faire tout ça, hein. Elle le faisait par amour. Et puis, Marie aussi, elle le faisait par amour, voilà, pour Jésus. Elle avait envie d'écouter Jésus, de poser des questions, l'écouter, etc. Au bout d'un moment, Marthe est devenue un peu nerveuse parce qu'il y avait des patates à éplucher pour faire de la purée, parce qu'à l'époque, les femmes savaient que la purée, ça se fait avec des pommes de terre. On a eu une sœur dans la communauté, je dis ça parce que ça fait... On a eu une sœur dans la communauté, elle n'est plus là, hein. Un jour, on lui dit, tu peux me passer les patates? Elle dit, mais il n'y a pas de patates. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est de la purée. Je dis, mais la purée, c'est fait avec quoi? Ah ben, j'en sais rien. Voilà. Elle ne doit pas être la seule, il doit y en avoir des tas comme ça. Si vous êtes une femme et que vous ne savez pas que la purée, enfin bon, c'est fait avec des patates, écrivez-moi, je vous donnerai encore d'autres cours pour vous expliquer. Il y a des choses rigolotes quand on vient commenter en communauté, on s'aperçoit de trucs rigolos. Donc, elle est un petit peu nerveuse parce que sa sœur ne l'aidait pas. Alors elle entre dans la pièce où se trouvent Jésus et Marie qui étaient assises au pied du maître et elle dit, Seigneur, ne te mets-tu pas en peine de ce que ma sœur me laisse toute seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Et voilà. C'est encore Jésus qui prend tout. C'est lui le responsable. C'est lui qu'on invoque, hein? Ah, s'il y avait un Dieu. Seigneur, pourquoi tu laisses faire tout ça? Pourquoi tu fais comme ci? Pourquoi tu fais comme ça? Hein? Beaucoup de gens parlent comme ça au Seigneur, ou ils parlent du Seigneur comme ça. Tu te mets pas en peine quand tu vois ce qui se passe dans ce monde, hein? Les gilets jaunes, leur gilet doit être sale au bout de toutes ces semaines, hein? Est-ce qu'ils entendent le nettoyer là? Tu te mets pas en peine pour eux là, hein? De ce qui se passe en France, tu te mets pas en peine? S'il y avait un Dieu, il y aurait pas tant de misère, c'est affreux. Voilà, c'est la faute de Dieu. Mais en réalité, c'est parce que, c'est plus ou moins conscient, ils n'osent pas aller parler aux gens de ce qui leur semble mal. Au moins, les gilets jaunes, ils vont dire ce qui leur semble mal. C'est vu Sarkozy, il l'a dit dernièrement, vraiment, il l'a dit, hein, Macron, il va mal finir. C'est terrible de dire les choses. Les gens disent des choses, mais c'est inouï. J'imagine à l'époque de Gaulle. Enfin, bon. Bon, non, les gens parlent comme ça. Parlent à Jésus. C'est la faute de Jésus. C'est la faute du gouvernement. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est infernal. Marthe parlait à Jésus. Jésus, ne vois-tu pas? Mais en réalité, elle parlait à sa sœur, c'était pour faire comprendre à sa frangine, dis donc, viens me donner un coup de main, j'ai de la purée mousseline à faire. Hein? Alors, Jésus ne reproche pas à Marthe de vouloir faire les choses bien et puis les faire aller très bien, mais il n'était pas non plus question pour lui de sanctionner Marie, parce que Jésus savait que Marie n'était pas une femme négligente ou feignasse, mais voilà, ce que Jésus voulait en premier, il était venu là, la première chose, c'était d'être en compagnie des gens qui vivaient dans la maison. Ça leur aurait suffi un sandwich, hein? Lui, ce qu'il voulait, c'était parler avec eux. Pardon,
un McDo.
Un McDo. Il me fallait aller chercher le McDo encore. C'était loin. J'allais aller jusqu'à Jérusalem. C'était loin. Et surtout, il désirait qu'elle soit attentive et réceptive à ce qu'il avait à dire. C'est rigolo. On reçoit des gens ici. Et moi, je suis toujours étonné. J'ai plein de choses à leur dire. Mais eux, ils parlent tout le temps d'un tas de banalités, d'un tas de trucs. C'est toujours assez étonnant de voir que les gens ne savent pas profiter de ce que Dieu met à leur disposition, tout près d'eux. C'est bizarre, mais enfin bon, je ne fais pas de reproche, mais quand même, je note la chose, c'est bizarre. Mais les gens, ils parlent tout le temps parce qu'ils ont peur que je parle, parce qu'ils ont peur que je les dérange. Parce qu'en vérité, il avait plus à leur donner qu'elle ne pouvait lui donner. C'est ça la chose. Et Jésus aimait Marthe, il aimait Marie de façon égale, il aimait Lazare, il aimait toute cette maisonnée. En fait, Lazare ce jour-là, je ne sais pas où il était, mais enfin, on n'en parle pas, mais ces deux frangines, elles étaient dévouées à Jésus. Mais chacune exprimait leur dévouement d'une façon elles le faisaient à leur manière. Il y en a une, c'était pour préparer la purée mousseline, puis l'autre, c'était pour écouter. Mais les deux, elles étaient dévouées, voilà. Marthe, c'était une femme pratique, elle se souciait des problèmes matériels. Marie était plus contemplative et plus à la recherche de la sagesse, de ces choses-là. Maintenant, il existe aussi une autre sorte de personne, ces gens qui ne servent pas Dieu et qui l'accusent au sujet de ce qui ne va pas. Ça, c'est la tendance majoritaire, n'est-ce pas, aujourd'hui. On fait rien, et puis on s'agite en rouspétant. On n'est jamais content. Et puis alors on accuse Dieu. Ah, s'il y avait un Dieu. Alors, il y a ceux qui travaillent sans cesse, et qui négligent aussi de s'occuper de leur famille, de leur bien-aimé. Voilà, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Mon père était un peu comme ça. Il était toujours en train de travailler. Et on ne le voyait presque jamais. Alors un jour, ma mère a acheté une télévision. Hein, je vous parle de ça, c'était dans les années 50. Et mon père a dit, qu'est-ce que tu as fait là? Il dit, ben, t'es jamais là. Et comme t'es jamais là, et puis les gamins, ben ils sont jamais là non plus parce qu'ils vont voir la télévision chez leurs copains, eh ben je suis toute seule. Mais je t'ai fait une maison magnifique. C'est vrai, il avait fait une maison magnifique. Mais elle s'embêtait dans cette maison magnifique. Donc elle s'est dit, si j'achète une télé, au moins j'aurai mes gamins. Parce que le mari, il était toujours en train de travailler. Il travaillait le jour dans une imprimerie, la nuit dans une autre. Le samedi, le dimanche, il travaillait à fabriquer une autre, à réparer une autre maison encore dans un autre village. C'était un travailleur terrible. Et c'est pourquoi, moi, je dis à ma mère, moi, quand je serai grand, je vais être pasteur parce qu'il travaille que le dimanche matin. Oui, je me suis aperçu que c'est pas tout à fait ça, mais enfin bon. Voilà. Donc, alors c'est des gens qui accusent, n'est-ce pas, ça ne va pas, ils accusent Jésus, c'est la faute de Jésus. C'est la tendance actuelle, on ne fait rien, on s'agite, on vous pète, et puis, ou alors on s'étourdit dans le boulot, on fait des tas de choses, on ne s'occupe pas trop de la famille. Alors vous voyez, quelque dévoué qu'il soit, un service qui se limite à un domaine peut devenir de la négligence. Parce que si vous vous occupez que du matériel, vous négligez le spirituel. Et si vous vous occupez que du spirituel, vous négligez le matériel. On a connu des gens comme ça, quand on allait leur rendre visite, hein, Michou, à chaque fois on savait qu'on allait faire le ménage. Hein. Ma sœur, elle était toujours en train de parler du Seigneur Jésus, alors il y avait des monceaux de vaisselle partout, il y en avait, c'était effrayant. On savait que la Michou rigolait en arrivant, on disait, qu'est-ce qu'on va trouver ? Et c'était terrible. Parce qu'elle était négligente d'un côté, parce qu'elle se donnait trop d'un. Il faut avoir un équilibre dans la vie. Alors vous voyez, il y a un temps pour chaque chose, comme je vous le disais il n'y a pas longtemps dans une de mes prédications. Mais dans cette situation, Jésus ne voulait pas prendre parti d'une façon cassante. Il ne voulait pas. Il dit juste à Marthe, bon, le mari a choisi la bonne part. Parce qu'en fait, je suis venu pour vous voir, ouais. J'avais pas besoin que tu fasses autant de choses. C'est gentil, il a parlé gentiment. Mais il ne voulait pas prendre parti. Il y a des situations où Jésus ne veut pas intervenir clairement. Il nous laisse nous débrouiller. Souvenez-vous de cet homme qui est venu un jour vers Jésus en lui disant « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. » Vous vous rappelez ? Et Jésus refuse net ce que cet homme voulait obtenir de lui, il refuse. Il lui répond, « Homme, qui m'a établi sur vous pour être votre juge et faire vos partages ?» Vous lirez ça dans Luc 12, 13, 14. Si Jésus avait accepté d'entrer dans cette histoire, eh bien, il lui serait arrivé la même chose qu'à Moïse. Vous lirez ça dans Actes 7, 27. Moïse y voit deux frères qui sont en train de se chicaner. Il essaye de ramener la paix en leur disant « Mais vous êtes frères, pourquoi est-ce que vous faites du mal l'un à l'autre ?» Et les deux frangins se mettent contre lui, et voilà que ça a mal tourné, mais alors tellement mal tourné, il y en a un qui lui a dit « Mais tu, qui t'a établi chef sur nous et juge ?» Et puis c'est devenu si grave, ils l'ont menacé, que Moïse a dû fuir pendant 40 ans. Alors, vous voyez, Jésus est intelligent, hein, il ne se mêle pas de tout. Il ne se mêle pas de tout. Voilà, c'est comme ça. Et encore aujourd'hui. Hein. Dans ces cas, les gens n'étaient pas prêts à recevoir leur sauveur et maître. Alors, Jésus ne voulut pas prendre parti parce que ça aurait mal tourné pour lui. Et comme la menace de persécution était déjà assez forte de la part des religieux, des pharisiens, tout ça, il n'a pas voulu prendre le risque d'être jugé pour une banale histoire d'héritage entre deux frangins juifs belliqueux. Il n'a pas voulu. Alors, si le peuple juif avait reçu Jésus, il aurait pu juger dans cette histoire avec justice et droiture. On lit ça dans Ésaïe 3, 11, 12. Qu'est-ce que je vous dis ? Ésaïe 11, Ésaïe 11, 1, 5, plus exactement. Puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, donc il est question de Jésus qui va venir au monde. Un rejeton de ses racines portera du fruit. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un ouï-dire, au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. Il frappera la terre par sa parole comme un coup de bâton, et par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera comme une ceinture autour de sa taille, et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Et puis ensuite, on voit le loup habitera avec l'agneau, la terre, etc. Voilà. Mais on ne le dit pas. Au moment où Jésus était sur la terre, ce n'était pas encore le cas. Et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Ça, là, ce qui est écrit là, c'est ça se passera pendant le millénium. Quand Jésus va revenir sur la terre et qu'il va régner. Pour le moment, là, les gens qui étaient avec Jésus, c'était des gens charnels. Et puis les gens qui sont là aussi sur cette terre, c'est des gens charnels. Alors Jésus, avec beaucoup d'amour, il leur dit « Débrouillez-vous !» Il ne dit pas ça comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. débrouillez-vous. Mais le jour vient où il régnera et il tranchera nettement. Ça sera pendant le millénium et il fera mourir le méchant. Voilà. Ça ne sera plus Jésus l'agneau de Dieu, ça sera Jésus le lion de Juda. Ça sera autre chose. Hein. Mais là, quand il était sur terre, et encore aujourd'hui, il se montre sage, parce qu'il ne s'agit pas pour lui d'introduire la justice sur la terre et de s'occuper des histoires d'héritage. C'est pas son problème. Il agit, et puis il y a beaucoup d'autres choses, c'est pas son problème. Il agit maintenant dans le but, maintenant c'est le but c'est d'emmener au salut ceux qui le reçoivent par la foi. C'est pour ça qu'il est venu. Et c'est pour ça qu'il agit encore maintenant, pour emmener au salut ceux qui le reçoivent par la foi. Et il y a un héritage pour eux qu'il leur est promis. Et en attendant, débrouillez-vous! C'est peut-être un peu cru ce que je vous dis là ce matin. Mais réfléchissez combien de prières vous faites dans le genre Marie ou dans le genre le frangin avec l'héritage. Et débrouillez-vous! Vous voyez, Jésus n'est pas le roi, c'est Satan qui est le prince de ce monde. Alors voilà, que faire maintenant avec toutes les injustices? Eh bien, humblement, allez sur vos genoux et priez. Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà, c'est la plus belle prière que vous pouvez faire. Là, vous êtes sûr, vous êtes exaucé quand vous priez comme ça. Parce que de toute façon, c'est sa volonté qui est faite. Mais au moins, vous êtes en accord avec lui. Deuxièmement, vous pardonnez ceux qui vous commettent des injustices envers vous. Vous savez pourquoi il faut leur pardonner? Pour que vous soyez tranquille, vous. Pas pour eux, c'est pas, bon, on s'en fout. Mais c'est pour vous, pour pas que vous soyez tourmenté, malade à cause de des bêtises que vous avez à subir. Et troisièmement, supporter quelques injustices. Paul dit que celui qui agit injustement recevra selon son injustice et qu'il n'y a point d'acception de personne. 1 Corinthiens 12, 13, c'est-à-dire quelqu'un qui vous fait une vacherie, un jour ou l'autre, il va la recevoir la bonne claque. Peut-être pas sur la terre, mais la Bible dit que même après la mort, il y en a qui se prendront des coups. Alors même si tout semble aller bien pour ceux qui nous ont trahis, enfin je ne sais pas si ça va bien, on ne les voit plus, on ne sait rien, mais en tout cas, un jour, ils vont prendre les coups parce que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas juste. Dans 1 Corinthiens 6, 7, Paul nous exhorte à ne pas faire de procès à des frères et des sœurs, mais plutôt de se laisser dépouiller. Voilà. Ça, c'est Paul, il dit ça. Hein? Et Pierre ajoute, « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Alors Marthe souffrait de voir sa sœur assise, l'homme souffrait de voir son frangin empocher tout l'héritage, et il nous arrive de souffrir injustement. Remettons ça dans les mains de Dieu avec humilité et attendons. J'ai lu l'autre jour sur Internet, attendons, la roue tourne. Et au passage, elle va en écraser quelques-uns. Non, ça c'est pas gentil. C'est pas gentil. La roue tourne, les choses changent. De toute façon, Dieu prépare une issue. 1 Corinthiens 10, 13. De toute façon, Dieu prépare une sortie. Ça peut prendre du temps, mais l'issue va s'ouvrir pour vous qui êtes victime d'injustice. Et puis pour le moment, eh bien, nous en sommes qu'au début des souffrances, la Bible nous dit. La détresse deviendra bientôt si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais de si grande. Matthieu 24, 21, 24, si vous voulez le verset. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Exercez-vous avec les apparentes injustices des maris et avec les injustices de vos frères et sœurs qui vous piquent votre pognon, qui vous piquent vos héritages ou avec votre famille. Exercez-vous avec ceux de vos amis qui sont injustes. Exercez-vous à les supporter et puis voilà. Ici, nous n'avons pas encore résisté, l'apôtre dit, jusqu'au sang à cause de Jésus en luttant contre le mal. Hébreux 12, 4. Il y en a qui ont lutté jusqu'au sang. Il y en a qui luttent encore jusqu'au sang aujourd'hui, qui sont persécutés. Le peuple chrétien est le peuple le plus persécuté du monde à l'heure actuelle. Nous, ça va, on n'a encore pas été jusqu'au sang. Mais ça va venir! Ça va venir, et si vous vous comportez comme des gamins capricieux aujourd'hui, aussitôt que vous avez une contrariété, vous allez pleurnicher vers Jésus, vous plaindre de ce que les autres vous ont fait, et puis, alors, qu'est-ce que vous allez faire quand ça va devenir grave? Jérémie 2,5 le dit. Je vais vous lire ça dans Jérémie 2,5. Non, c'est 12,5. Jérémie 12, 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Vous comprenez ce que ça veut dire? Pour le moment, c'est des injustices que nous subissons. Je ne veux pas dire que c'est des babioles, il y a des choses graves. Nous, on a subi des dommages très graves. Mais c'est des babioles par rapport à ce qui va arriver là. Ça va être tellement grave, il n'y aura jamais eu quelque chose aussi grave que ça. Allez demander aux gens qui ont subi les deux dernières guerres mondiales, allez demander en Afrique, allez leur demander si c'est grave ce qu'ils vivent. Ben ça sera encore pire que ça, et ça va venir chez nous, ça va venir ici. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs qui habitez les villes, fuyez! Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas dans les campagnes, mais ça viendra un peu plus lentement dans les campagnes. C'est vrai, hein? C'est vrai. Faites attention à ce que je vous dis. Je vous l'aurais dit. Vous dites, ah oui, Michel en fera. Oui, ben il arrivera un moment, ce sera trop tard. Il faut le faire maintenant. Parce que c'est en train de venir. Alors, si vous vous comportez comme des gamins, qu'est-ce que vous allez faire quand ça va devenir grave? Vous voyez? Il faut que nous soyons attristés par diverses épreuves. C'est Pierre qui dit ça. 1 Pierre 5, 6, 7. Il le faut. Il faut que nous soyons attristés par diverses épreuves. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les réponses. Et Jésus ne veut pas nous donner toutes les réponses non plus. Parce qu'ici-bas, c'est par la foi que nous devons vivre, que nous devons marcher, que nous devons évoluer. Et si nous avons toutes les réponses, eh bien, on n'a plus besoin de la foi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Les gens du monde, eux, ils vont consulter les devins, les mages, les astrologues. Nous, est-ce qu'on va aller consulter les prophètes? Non! Non. Bon, chaque fois qu'il y a un prophète qui m'a parlé, c'est lui qui est venu chez moi, c'est moi, je n'ai jamais été le chercher. Je vois des réunions où il y a, alors c'est l'évangélisation dans la grande salle, puis il y a une petite pièce où il y a un prophète ou une prophétesse, puis je vois les chrétiens qui font la queue pour aller... Moi, je déteste ça, je trouve que c'est un petit peu comme les païens qui vont voir Madame Irma. J'aime pas ça! J'aime vraiment pas ça! Vous allez me dire, peut-être j'ai tort! Peut-être j'ai tort, mais je crois bien que j'ai raison quand même. Si, moi, ça m'est arrivé de rencontrer des prophètes dans la rue! Dans la rue! Ça m'est arrivé même de rencontrer un ange dans le métro. Eh oui. Mais je ne vais pas chercher. Non. J'ai confiance en Dieu. Alors les gens du monde, eux, courent derrière tous ces trucs-là. Nous, non. Dieu place les prophètes devant nous quand il veut nous dire quelque chose et vous n'avez pas à courir derrière les prophètes. Ah, ça peut arriver des fois que c'est tellement... Voilà. On comprend, je ne vous condamne pas si vous allez chercher... Si vous avez consulté un prophète, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a d'autres façons de faire. Par contre, ce que vous pouvez faire à la place d'aller chercher un prophète, c'est déjà commencer à développer votre intelligence. Maintenant, votre sagesse, votre intuition aussi. Et surtout, développer votre confiance en Dieu, qui fait toutes choses à merveille en temps voulu. C'est la plus grande marque de votre amour pour lui, c'est d'avoir foi en lui, d'avoir confiance en lui. Si vous n'avez pas commis l'injustice, ben vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas à craindre. Seulement, voilà, vous voyez, Marthe était tellement intime avec Jésus, elle le connaissait tellement. Alors, plutôt que de faire des reproches à sa sœur, elle se permet d'en faire à Jésus. C'est typique. D'où la fameuse phrase, « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Dieu n'est pas un distributeur de solutions toutes prêtes. Non, monsieur. Et même, il refuse de se mêler de certaines de nos affaires. Vous allez me dire, ah bon ? Eh bien oui, il faut bien que quelqu'un vous le dise. Il refuse nettement de s'occuper de certaines de vos affaires parce qu'il estime que nous devrions être assez intelligents pour nous débrouiller nous-mêmes. S'il devait s'occuper de tout, pourquoi est-ce qu'il nous demande d'être sages et de rechercher la sagesse s'il s'occupe de tout ? On n'a pas besoin d'être sage, on n'a pas besoin de prier pour être sage, on n'a pas besoin de demander la sagesse à Dieu, ni l'intelligence, on s'en fout. Dieu s'occupe de tout. Vous comprenez ? Pourquoi s'il s'occupe de tout ? Pourquoi est-ce qu'il nous est dit dans la Bible que nous devons être renouvelés dans notre intelligence ? À quoi ça sert l'intelligence si Dieu s'occupe de tout ? L'autre jour, je lisais une phrase de Pierre Dac qui disait « À quoi sert l'intelligence s'il n'y a pas d'imbécile ?» Nous devons progresser en intelligence. Pourquoi ? Pour pouvoir débrouiller certains problèmes, pas toujours aller demander à Dieu. Et pourquoi a-t-il pourvu pour que nous soyons entourés par des ministres de sa parole ? Pourquoi est-ce qu'il veut que dans son église, il y ait 5 ministères ? Les connaissez, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour l'édification du corps de Christ. Pour que nous parvenions tous à la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des ministres de l'évangile, de la parole, si on n'en a pas besoin ? Si on va simplement demander à Jésus. Ah oh non, moi je préfère demander à Jésus. Ben non, t'as tort, Dieu a pourvu, dans son église, il y a des ministres, voilà. Pourquoi est-ce qu'il veut que nous ne restions pas tout seuls, mais que nous ayons une réelle communion d'amour fraternel ? À quoi ça sert, les frères et sœurs ? Juste à être assis à côté de nous au culte ? Non ! Nous sommes membres du corps de Christ et nous avons tous des talents différents les uns des autres pour pouvoir nous aider. Moi, je suis très content d'avoir une main droite capable d'aller me gratter le dos. Mais il y a des fois, j'arrive pas à y aller parce que c'est trop haut. Je commence à me dire un peu vieux, alors j'ai ma femme. Chérie, tu voudrais pas gratter ? Non, juste un peu plus haut. Voilà, juste un peu. On a besoin les uns des autres. Mais si vous êtes tout seul, eh ben vous allez demander à Jésus. Vous avez tort. Vous allez demander à Jésus parce que vous êtes tout seul, parce que vous ne connaissez pas un frère, une sœur de confiance avec qui vous pouvez parler. Pourquoi est-ce qu'il nous demande, Jésus, de prier ensemble ? Nous, dans la communauté, on prie ensemble. Eh bien, je vous assure, les réunions de prière, c'est très instructif. On apprend beaucoup de choses, des besoins des uns et des autres, et de leur famille. Pourquoi est-ce que Jésus nous dit que quand on prie ensemble, avant, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que nous allons demander. Ça, c'est dans Matthieu 18, 19. Eh bien, c'est parce que quand nous parlons ensemble, pour nous mettre d'accord pour demander quelque chose à Dieu, eh bien, il arrive que pendant que nous sommes en train de parler de la chose, quelqu'un a une idée pour trouver la solution. On n'est même plus obligé de demander à Dieu. Vous comprenez ? Pourquoi ? Pourquoi faut toujours aller vers Jésus ? C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il ne veut pas, parce qu'il a institué d'autres choses, d'autres moyens, d'autres méthodes. Jésus dit, non, Marthe, Marie a choisi la meilleure part, mais, un autre jour il dit, vous ne m'aurez pas toujours avec vous.
Et certains disent, oh, ça aurait été bien si on avait été du temps de Jésus, on aurait marché avec lui, on aurait eu là tout le temps pour lui poser toutes les questions, ça aurait été super. Mais de nos jours, nous avons l'Église. Oh oui, mais dans l'Église, c'est plein d'hypocrites. Eh bien, fréquentez pas les hypocrites. Chez nous, il n'y en a pas des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas. La Bible a raison. Le méchant ne supporte pas la compagnie des justes. Et voilà. Donc, on n'a pas d'hypocrites chez nous. On en a eu, mais on n'en a plus. Il ne reste pas longtemps. Hein? De nos jours, nous avons l'Église. Et dans l'Église, il n'y a pas que le pasteur. Tous les membres du corps de Christ sont là. Et nous pouvons tous nous entraîner, parce que nous avons tous des talents différents. En dernier recours, Dieu a pourvu avec la justice humaine. Eh oui. Alors je ne dis pas, quand je dis justice, je ne dis pas forcément tribunal, mais je dis hommes et femmes d'autorité. Il y a des avocats. Ah, mais il faut les payer. Oui, mais c'est normal, c'est leur métier. Quand vous allez à l'église, vous payez aussi, vous donnez votre dîme. C'est normal. Tout salaire, tout travail mérite son salaire. Donc, vous allez trouver un avocat avec votre problème, il connaît toutes les lois, il va vous débrouiller l'affaire. Et puis même si vraiment vous êtes pauvre, eh bien il y a des avocats d'office. À la mairie, il y a un avocat d'office qui est là pour ça. Vous allez me dire, oui, mais ils sont moins bien. Bon, ben alors, économisez un peu d'argent, puis allez trouver un avocat que vous allez pouvoir payer grassement. Mais arrêtez de vous plaindre. Il y a des avocats. Et puis il y a des notaires aussi. Il y a des notaires. C'est bien les notaires. Vous savez que les notaires ne gagnent pas très bien leur vie. Ils sont taxés. Ils gagnent presque rien. Alors, même entre frères et sœurs, il est bon de faire les choses importantes devant un notaire. Il y a un frère qui m'a dit, ah non, moi, mes amis, je leur fais confiance. Eh bien, depuis 20 ans que je le connais, avec ses amis à qui il fait confiance, il a fait 3 fois faillite. Parce que ses amis en qui il avait fait confiance, ils l'ont trompé. Et comme il n'avait pas fait le papier, eh ben voilà, nous on fait tout chez notaire. Non, comme ça, on n'a pas de problème. Les choses sont réglées légalement. Vous voyez, Dieu a pourvu. Pourquoi? S'il avait eu un notaire, l'autre, là, avec son héritage, pas de problème. Mais est-ce que les notaires existaient à cette époque-là? J'en sais rien. Mais à notre époque, oui. Donc Dieu a pourvu. C'est magnifique. Vous oubliez que c'est Dieu qui a placé ses autorités pour nous protéger si nous faisons le bien, mais aussi pour nous punir si nous faisons le mal. Mais si nous sommes dans la justice, si nous n'avons rien fait de mal, on n'a pas à avoir peur des autorités, d'aller trouver un avocat, de faire des papiers chez un notaire. On n'a pas peur, en fait. C'est pour le bien qu'on le fait. Hein? Vous voyez, Dieu nous a donné l'intelligence et nous pouvons la développer. C'est comme un muscle. Un muscle ne se développe que quand on exerce une résistance dessus. Vous prenez un halter, on dit un halter, ou une halter, je ne sais plus. Et puis, vous faites des mouvements, il y a des mouvements, et ça, il y a une résistance qui est faite sur le muscle, ce qui fait que ça développe le muscle. Alors, il y en a qui disent, ah, c'est de la gonflette. Et puis, ceux qui sont musclés, comme moi, ils regardent ceux qui boivent de la bière, et qui mangent des McDo à longueur de journée, et je dis, oh, il fait de la gonflette, lui. Ben oui, ils sont gonflés, comme c'est pas possible. Travailler ses muscles, on ne peut pas les développer s'il n'y a pas une opposition, s'il n'y a pas une résistance. Eh bien, c'est la même chose avec l'intelligence. Si vous n'avez pas de problème, votre intelligence ne risque pas de se développer et vous allez rester bête toute votre vie. Bête, comme dit Nicolas. Alors, heureusement qu'il y a des difficultés comme ça nous rend intelligent. Et comme ça, nous arriverons dans le royaume de Dieu, nous retournerons auprès du Père en ayant acquis quelque chose que nous n'avions pas avant, une expérience. qui sera utile dans les mondes futurs. Nous devons développer notre intelligence avec tout ce qui nous est donné, et puis aussi, bien sûr, demander à Jésus, parler avec Jésus au sujet de tout, mais pas en le prenant pour notre boniche. Il n'est pas notre boniche. Nous pouvons faire beaucoup de choses tout seul. D'accord ? Un jour, j'étais avec Pierre Gilbert. Vous connaissez les scatologues. Et on avait, je ne sais pas, 200 personnes qui étaient là. Et à la fin, j'ai dit, écoutez, s'il y a des personnes qui souffrent, on va prier pour les malades. Alors, il y a une jeune fille qui s'est avancée et qui avait une jambe 2 cm plus courte que l'autre. Alors, comme mon ami Pierre Gilbert, l'escatologue, il est aussi chiropracteur, j'ai dit, tu veux le faire? Parce que lui, il sait comment faire pour rallonger une jambe. Rallonger une jambe, c'est pas une jambe qui se rallonge, c'est le bassin qui se remet en place. C'est que le bassin est biaisé, et alors ça vous fait des douleurs, et puis la jambe, vous avez une jambe qui est plus courte. Qui semble plus courte. Elle n'est pas plus courte, c'est simplement que le bassin doit être remis en place. Un chiropracteur vous fait ça en quelques instants. Il m'a dit, non, c'est une réunion chrétienne, fais-le toi-même. J'ai dit, mais pas de problème. Donc j'ai demandé à cette jeune fille de s'asseoir sur une chaise, et puis j'ai demandé de poser ses deux pieds, ses deux jambes sur mon bras, et puis on a constaté qu'en effet, il y avait 2 cm plus court sur une jambe, je ne sais plus laquelle c'était, la gauche ou la droite, et j'ai commandé à ce bassin de se remettre en place au nom du Seigneur Jésus-Christ, et en 30 secondes, c'était fait, le miracle s'est produit. Nous pouvons faire des miracles, nous pouvons invoquer le nom de Jésus, mais on peut aussi aller chez un chiropracteur. Bon, c'est plus cher. Mais vous voyez, Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné une tête. C'est pas seulement pour qu'on mette un chapeau dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on s'en serve et il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on se muscle l'intelligence afin que nous puissions nous-mêmes nous débrouiller et aussi aider les autres à se débrouiller. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Jésus d'aider mes frères et sœurs à bien saisir ce que j'ai voulu leur dire et qu'ils puissent comprendre ce qu'il y a à faire dans leur affaire et qu'ils ne comptent pas simplement tout le temps sur ton intervention, mais que par leur intelligence qui est un don de Dieu, ils y arrivent. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt. Dieu vous bénisse.